RMC, After Afrique.
Nicolas Jamin.
Salut à tous, bienvenue dans l'After Afrique, épisode exceptionnel, car la CAN nous manque. Et j'ai convoqué évidemment l'homme qui a fait briller RMC à Rabat, au Maroc, pendant quasiment 3 semaines. Walid Chachour est avec moi. Salut Walid.
Salut Nico, salut à tous.
On a du mal à passer à autre chose, la vérité.
Ouais, c'est vrai qu'elle nous manque. Et puis, comme on l'a décrypté, on aimerait bien avoir quelques réponses à nos questions.
Ah, mais ça tombe bien.
À nos affirmations. Donc, on a convoqué.
Tu veux des réponses?
Oui, on a.
On a un des grands personnages de la CAN. On a profité de sa présence à Paris pour le convoquer. Enfin, convoqué, oui. Un peu prétentieux comme expression.
Ça fait longtemps qu'on essaie de l'attraper.
Ça fait très longtemps.
Très longtemps.
Il y a eu des messages, des vocaux, WhatsApp, SMS, tout. Mais c'est un homme qui était très pris, en fait.
Exactement. Hein. Mais on l'a capturé.
Depuis janvier 2025,
On l'a eu.
On l'a donc en février 2026. On est très heureux. Un des grands personnages de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Eric Schell est avec nous. Salut Eric.
Ouais, bonjour.
C'est un plaisir de t'avoir avec nous.
Bonjour Nicolas.
Je rappelle qu'on est en audio, en vidéo également sur YouTube. Hein. Allez-y. C'est le podcast After Afrique exceptionnel. Eric, sélectionneur du Nigeria depuis janvier 2005. Demi-finaliste, 25.
2005, ça ferait beaucoup quand même.
Fatigué.
C'est pas encore le Ferguson.
25.
C'est pas encore le Ferguson.
Ce serait la plus grande longévité d'un sélectionneur, je pense.
C'est pas le Oscar Tabarez du Nigeria, quoi.
Deschamps non plus, quoi.
Ouais.
25.
On lui souhaite, hein, on lui
26.
Souhaite.
26. Comment ça va depuis cette demi-finale perdue face au Maroc? Pas perdue, d'ailleurs.
Ah si, elle est perdue.
Tire au but, quoi.
Oui,
sur le classement FIFA, c'est match nul.
Voilà, c'est ça.
Donc c'est... Non, après ce match... Pas beaucoup de repos, parce que je suis parti directement au Nigeria. On a analysé cette CAN là-bas au Nigeria avec la fédération, le board technique, etc. Et puis là maintenant, on discute avenir, on discute projet à court terme, à moyen terme et à long terme.
Mais ton avenir, c'est réglé là. Moi, je me rappelle une journaliste nigériane à la fin, après demi-finale, qui te remercie en Mondovision. Tout le monde a salué la qualité du jeu nigérian, l'évolution tactique, on va en parler bien sûr. Cette demi-finale, certes, tu n'étais pas en finale, mais quand même, quoi, ta popularité, elle n'est plus la même qu'en janvier 2025 au Nigeria.
En fait, moi, je n'ai pas l'impression d'avoir changé.
Toi, non, mais le regard sur toi.
Peut-être, mais après, tu sais, quand tu es dans une Coupe d'Afrique comme ça, moi, j'étais concentré sur ce qui se passait autour de l'équipe, sur le jeu qu'on voulait proposer, sur la gestion du groupe. Et puis après, c'est vrai que ce qui se passait autour, c'était pas trop mon problème, et c'est toujours pas trop mon problème. Moi, c'est vrai que je suis dans une équipe nationale, c'est une très grande équipe nationale. Je suis très content d'être entraîneur. Maintenant, il y a toujours des discussions. Moi, ma volonté, c'est de rester. Maintenant, il faut que les deux parties soient...
Oui, c'est ça.
Passer un pas vers l'autre, on va dire.
Mais l'image, elle a quand même changé, Eric, par rapport à ton arrivée, même si tu avais fait du très bon boulot avec le Mali. Le Nigeria, avec tout le respect que j'ai pour le Mali, est une sélection historique en Afrique. Et ce que vous avez dégagé en termes de jeu, en termes de compétitivité, je pense que ça t'a quand même renforcé, que ce soit médiatiquement ou même à la fédération du Nigeria, non ?
Ouais, non, bien sûr. Maintenant, médiatiquement, comme tu l'as bien dit en préambule, c'est vrai que je ne suis pas trop quelqu'un qui parle dans les médias, et c'est vrai que j'aime bien être loin, parce que bon, j'ai un petit défaut, c'est que j'aime bien dire la vérité et ce que je ressens. Donc des fois ça me joue des torts, et donc c'est vrai que j'essaie de prendre un petit peu de recul par rapport à ça. Bon, c'est vrai que médiatiquement ça a fait un coup de boost. Tiens, Eric Schell, il existe, ouais, donc ça fait un moment que j'existe, ça fait un moment que je travaille, que j'essaie de peaufiner ma vision sur le football, d'essayer d'apporter quelque chose de nouveau. Je ne dis pas que je détiens la vérité, mais d'essayer d'apporter ce que je ressens, mon feeling, le football que j'aime bien, quand on a le ballon et quand on n'a pas le ballon. Donc j'essaie de mettre ça en place. Et là, ça, sur cette CAN, c'est vrai que ça a marché. Mais il y avait des... Avec le Mali, ça a bien marché aussi.
Quart de finale, je précise. Quart de finale, CAN en Côte d'Ivoire, deux ans avant avec le Mali.
Qui s'était terminé dramatiquement à l'époque, dans des conditions, on en parlera peut-être après. C'est quoi le bilan que tu tires du Nigeria, là, sur cette compétition un peu à froid, avec le recul? Tu parlais de discussion avec la fédération à Lagos. Qu'est-ce qu'il en est sorti de positif et de moins positif?
Déjà, moi, sur mon contrat, l'objectif qui était assigné, c'était les demi-finales. Donc, on va dire que l'objectif
est rempli.
Purement contractuel est rempli. Maintenant, je ne te cache pas qu'avec les joueurs, on voulait gagner cette Coupe d'Afrique. Donc, et moi aussi, je voulais la gagner. Je pense qu'on a été très bons sur le terrain et en dehors aussi, en termes d'image, à part ce petit couac concernant les primes. Mais je pense que les joueurs et je pense que le public au Maroc a aimé voir jouer cette équipe. Il y avait une très bonne ambiance dans le groupe. Les entraînements c'était vraiment des entraînements de qualité. Non, on a pris beaucoup de plaisir. Maintenant, c'est vrai que c'est sur cette demi-finale, et d'ailleurs j'en parle avant la demi-finale, parce que tu ne peux pas faire un match comme tu as fait contre l'Algérie en termes d'intensité, en termes de jeu, et réitérer le second match 48 heures après, un match de même facture. Donc moi, j'avais tiré la sonnette d'alarme, et c'est pour ça, bon...
On avait parlé de bluff à ce moment-là. Sur ta conférence de presse.
Ouais, tu dis, on sera fatigué, on s'attend à subir, on va laisser le ballon. C'était pas le Nigeria. T'étais vraiment sincère à ce moment-là ?
Ben oui. Qui de mieux que moi peut en parler, parce que je les vois au quotidien. Nous, après le match contre l'Algérie, on joue à Marrakech, on repart à Fès. Et de Fès, on va à Rabat. Et on joue 48 heures après. Donc nous, on n'avait pas une chambre cryothérapie avec nous. Pour la trimballer et récupérer. Donc c'est vrai que la récupération a été très difficile.
Pendant que les Marocains restent à Rabat, ils ont fait leur compétition, ils avaient 24 heures de récupération en plus par rapport à vous.
Tout à fait. Donc,
mais c'était pas possible d'aller à Rabat directement, de Marrakech à Rabat ?
Ça, j'en sais rien. Ouais. J'en sais rien. Le tout, c'est ce qu'on a fait. On a fait Marrakech-Fès et Fès-Rabat. Donc bien sûr en avion, mais à ce niveau-là, c'est vraiment les petits détails. Et donc après, pas beaucoup de séances d'entraînement, hein, je veux dire deux, mais un petit décrassage le lendemain du match et puis un entraînement de veille de match.
T'as senti les mecs vraiment fatigués ?
Ah oui.
Enfin, rôtis, quoi. On l'a vu, on va parler du match après, la demi face au Maroc, hein, pour comprendre pourquoi Osimhen n'a pas fait le match qu'il avait fait en quart de finale, ou sa CAN en général.
Pareil
pour Lookman, Iwobi.
Quand tu regardes le match, si tu regardes le match du Maroc, Accor est fatigué, il perd beaucoup de ballons. Victor, c'est compliqué parce qu'il faut, personne ne le sait, mais Victor, il est venu à cette Coupe d'Afrique blessé. Et il a joué la Coupe d'Afrique blessé. Il avait une petite déchirure aux ischio-jambiers, donc il a fallu le gérer. Et puis Ademola Lookman, lui, finalement, son début de saison en septembre, il n'a pas beaucoup joué non plus. Donc il est arrivé. Il a donné sur cette phase de groupe, il a été très bon. Donc,
exceptionnel.
Très très bon. Et puis après, en quart de finale, si tu regardes bien le match, physiquement, il est bon, mais il commence à flancher un peu. Et puis c'est vrai qu'on les a sentis très fatigués. T'as pas Wilfried Ndidi qui est le.
Il a beaucoup manqué.
Le capitaine.
En fait, en gros, on est sur un pressing tout terrain. Où j'ai cinq joueurs qui sont le premier rideau sur le pressing. Et en fait, tu as Wilfried Ndidi qui est le capitaine, qui lui sécure, qui lui sécurise tout. Donc attention, en second couteau, j'ai Raphaël Onyedika.
Qui est très bon à Bruges, mais qui avait raté son match contre le Maroc. Moi, je l'aime beaucoup en Ligue des Champions. À chaque fois que je le vois, encore contre Marseille, il a été très très bon, même contre le Barça ou contre Monaco. Et là, c'est vrai que par rapport à Ndidi, il a un peu souffert de la comparaison sur le match.
En fait, tu sais, c'est deux profils différents. Tu vas être Raphaël Onyedika, où tu vas être plus sur un profil qui va jouer plus sur un système où je veux dire où tu vas avoir des ailiers 4-4-2, 4-2-3-1, et tu vas être plus sur un bloc médian. Et tu vas plus couper les passes. Il est très intelligent dans cette lecture tactique. Et Will, qui va être plus dans un profil ou qui va être capable d'aller de sortir sur les joueurs, et d'harceler et de récupérer le ballon dans les pieds des adversaires, tu vois. Donc c'est deux profils différents. Et là, Rafa, sur ce match, c'est vrai qu'il a été moins bon que Will, mais après c'est un super joueur. Hein.
C'est un super joueur.
D'ailleurs, là contre l'OM, il a été bon. Hein.
Très très bon.
Et puis même, je pensais qu'il allait être transféré. Non, c'est un très bon.
Mais d'ailleurs, attends, tu nous parleras de Nadi tout à l'heure, qui vient de signer à Marseille. Tu l'as appelé pour la CAN, c'est toi qui es le premier à l'avoir convoqué avec la sélection. Il a joué que 13 minutes, mais on veut ton avis là-dessus.
L'équation marocaine dans cette demi-finale-là, parce qu'on parle de la fatigue, il ne faudrait pas que les gens pensent que c'est une excuse. Il y a aussi une équipe marocaine qui avait aussi pas mal de blessures, qui était aussi un peu fatiguée, mais qui vous a rentré dedans et qui a fait un sacré match.
Tout à fait. C'est vrai que j'ai pas eu le temps d'en parler. Non, le Maroc a été très bon. Le Maroc a été très bon en termes d'intensité. Ils nous ont pressés. Ils nous ont pressés. On n'a pas trouvé les solutions en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on est revenu avec un petit peu plus, mais le Maroc a été très bon. Je veux dire, quand justement en conférence de presse, je parle de Walid, tout le travail qu'il a fourni, je sais pas, encore une fois, c'est pas des paroles en l'air, c'est la vérité. On peut lui poser la question. Nous, il avait étudié cette équipe, tous les matchs, il les a étudiés. Donc non, bien sûr qu'ils nous ont bloqués. Ils nous ont mis énormément d'intensité, ils ont été très agressifs. Dans le jeu, au niveau de la qualité technique, moi je trouve que cette équipe du Maroc, elle a progressé tout au long de la
compétition,
tout au long de la compétition, et ils arrivent contre nous, ils méritent cette victoire.
Parce que heureusement qu'il y a Kalin Basset qui fait un match exceptionnel
derrière.
C'est un
match monumental.
Parce que sinon le Maroc,
lui il avait l'air frais. Ouais, c'est ça qui est dingue.
T'as Calvin, t'as le latéral gauche Bruno qui fera un super match aussi. T'as Bright, le latéral droit qui fait son match aussi.
Nabali aussi qui a fait son match.
Nabali. Non, après, les joueurs, ils se sont battus. Hein. Ouais. Les joueurs, ils se sont battus, ils ont tout donné. Et en fait, moi, ma réflexion, c'était ça. C'était est-ce que je commence et je reste dans la même... dans le même plan de jeu, ou est-ce que j'essaye de changer et de les attendre? Mais j'étais pas convaincu que si je les attendais, j'allais pas en prendre deux ou trois.
Ouais.
Parce que laisser la balle au Maroc, dans un stade de 85 000 spectateurs... D'ailleurs, c'était la folie. Hein.
Ouais.
Ouais. C'était la folie. Moi, je n'avais jamais vécu un match comme ça.
Ouais, c'était incroyable.
C'était incroyable. Donc, je n'étais pas persuadé qu'en laissant la balle, on n'allait pas plus souffrir. Donc, on a essayé d'aller presser. Mais si tu regardes le match, après 15 minutes, on n'arrivait pas à presser. Ouais. Parce qu'on avait toujours 1 mètre, 2 mètres.
Parce qu'avant la demi, c'était la clé, en fait. Parce que le Nigeria était l'équipe qui pressait le mieux avec le Maroc. Et on se disait, purée, comment ça va se passer? Parce que ça va être une bataille intéressante.
Surtout, vous aviez deux options par rapport aux autres sélections. Tu savais subir et tu savais également avoir la maîtrise. Ce qu'on savait, c'était la particularité du Nigeria.
Avec des joueurs en transition qui pouvaient exploser.
T'as des joueurs en transition, ouais, pouvaient transition, et des joueurs aussi qui arrivent à garder le ballon, ouais, quoi. Donc, deux options. Donc, nous, on était un peu déçus. Tu l'expliques, tu l'as dit pendant la CAN. Effectivement, on était fatigués, moins de récup, un déplacement en plus. Mais ce que tu dis là, c'est grave, finalement. Je vais pas taper sur l'organisation marocaine, c'est pas ça l'idée. Mais on arrive sur une demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations. Que tu ne puisses pas te présenter, si tu veux, avec tes armes qui ont fait ton parcours cette canne-là, à cause de ça, c'est fou quand même.
Non, mais après, c'est que à cause de ça, je pense.
Non, mais ça joue aussi, parce qu'on n'a pas reconnu le Nigeria, qui était, après quart de finale, quasiment notre favori.
Oui, mais après, c'est l'eau d'une compétition.
C'est l'eau d'une compétition. Il y a des matchs, t'as des équipes qui ont 4 jours pour récupérer, t'en as qui ont d'autres 3, parce qu'il y a la demi-finale, il y a la finale, il y a les phases de groupe. Donc, c'est l'eau d'une compétition. C'était pas voulu par le Maroc.
Non,
c'était pas voulu.
Après,
en termes d'organisation, en termes de récupération, on doit faire mieux que ça aussi.
Ah.
Voilà,
parce qu'il y a une gestion, moi j'aimerais te poser la question, Eric, mais tu parles d'Osimhen, par exemple. Ouais. Mettons les pieds dans le plat, joueur exceptionnel. Mais quand il joue contre l'Ouganda sur le troisième match, est-ce qu'il n'y a pas une gestion, et je crois qu'il joue beaucoup, hein, parce que je ne sais pas s'il termine le match, moi je m'étais fait la remarque, je pensais que tu allais le mettre au frigo sur le troisième, et pour le coup, il y avait eu un gros turnover, hormis Osimhen. Il n'y a pas une erreur de ta part là-dessus, avec un peu de recul, ou dans cette fameuse gestion-là, de se dire, bon, on va essayer de le protéger pour la deuxième partie de compétition.
Ce qu'il faut savoir, j'aurais pu le faire aussi contre le Maroc, hein. Mais on peut le dire...
Ouais, mais c'est un match moins important que l'Ouganda.
Mais on peut le tourner comme ça, comme une erreur de ma part. Après, Victor, dans tous les sens du terme, c'est quelqu'un qui est très important dans le groupe. Il y a une équipe nationale du Nigeria avec Victor sur le terrain et sans Victor sur le terrain. Donc, l'Ouganda, on était qualifiés, mais...
Sur d'être premier aussi, parce qu'avec la victoire contre la Tunisie.
Sur d'être premier aussi. Maintenant, tu sais, t'as des... comment dire, t'as des joueurs en termes de gestion humaine, il faut essayer de les driver pour qu'ils t'apportent, pour qu'ils t'amènent ce qu'ils veulent, ce que tu veux. Donc moi aujourd'hui, on n'a pas eu de discussion par rapport à ça, mais moi, tu sais, quand j'analyse ma CAN, je me dis Victor, c'est un top striker. Le gars, on arrive au deuxième match, finalement, il n'a pas beaucoup marqué tant que ça. Tu vois, et on a une équipe qui est offensive. Donc, il fallait que je lui donne cette capacité.
Cette confiance en plus sur le troisième match.
Tu voulais qu'il marque sur le troisième match, tout
voilà.
ça.
Il marque contre la Tunisie, mais tu voulais qu'il continue.
Voilà, qu'il continue à marquer.
Ok.
Voilà.
Et c'est ce qu'il voulait aussi, j'imagine. Tu le ressens, ça.
Bon, moi, il ne m'en a pas parlé. Mais s'il ne voulait pas jouer le match, il pouvait venir me le dire aussi, parce que je leur donne aussi cette possibilité. Les gars, moi, je vous fais jouer, mais si vous ne le sentez pas, vous venez, vous m'en parlez, et puis après, moi, je décide.
Donc tu as eu ce parti pris entre le faire reposer ou lui donner encore plus de confiance, tu as choisi la deuxième solution.
Exactement.
D'accord.
Exactement. Maintenant, bon, ça ne m'a pas souri, mais non, je pense que j'étais aligné sur, encore une fois, sur ce que je ressentais. Je pense que lui était aligné aussi. D'ailleurs, je pense qu'il était bien content, parce que c'est son premier match en tant que capitaine de l'équipe nationale du Nigeria. Voilà.
C'est fou, ça arrive tard. Alors, revenons sur la demi-finale vite fait, Eric, quand même, parce qu'il y a la séance de tir au but. On
en
parlait avec Walid.
On en parlait.
Moi, j'étais au stade, on s'est dit, Eric, il sort Victor. 3 minutes avant la fin de la prolongation, quoi. Et donc de la séance de tir au but.
Et plus globalement, moi j'étais très énervé ce soir-là. J'en ai parlé notamment dans les émissions où on débriefait le match. Parce que c'est la deuxième séance de tir au but que vous manquez. À
la finale continentale du barrage.
À une échéance très très importante contre la RDC. C'est dans des conditions différentes parce que Osimhen se blesse à la mi-temps. Lookman est sorti un peu plus tôt. Mais c'est la deuxième séance de tir au but où on n'a pas ni Iwobi, ni Lookman. Et ni Osimhen qui tire, alors que pour moi, c'est les trois meilleurs joueurs, en tout cas les trois leaders techniques de ton équipe.
Et comment expérimenté
surtout. Avec beaucoup d'expérience. Et moi, j'ai essayé de regarder un petit peu, mais précédemment, je vois très peu de sélections ou même de clubs où ça arrive, ça. Où le numéro 9, qui est une superstar, Lookman, qui est le meilleur joueur du tournoi avec Brahim Diaz à ce moment-là, et Iwobi, qui a une qualité technique et qui nous a montré, qui était pour moi le meilleur milieu de terrain avec Baléba depuis le début de la compétition. Comment on l'explique, ça? Est-ce que on peut avoir nos réponses?
Déjà, il faut que tu saches que après chaque entraînement on tirait des pénaltys, donc chaque entraînement tout au long de la CAN. Et juste pour revenir sur quelque chose, moi je tape pas sur l'organisation du Maroc, hein, mais si je peux dire quelque chose, c'est qu'on a eu un tournoi, on a dû préparer en 7 jours, donc physiquement
t'as eu une préparation très réduite.
Il n'y a pas eu de préparation, voilà. Bon, bref, ça c'était la petite parenthèse. Donc on tire les...
Ça c'est à cause de la FIFA, entre guillemets, qui a réduit. C'est pas le Maroc pour le coup, c'est la FIFA.
Loin de moi de dire c'est la faute de...
Non mais t'as le droit de le dire, c'est pas grave. Mais, même si Infantino nous regarde, on le sait, mais...
Non, moi aujourd'hui, je pose les faits et...
Chacun se fera sa propre voix.
Donc, on tire les pénaltys à chaque entraînement. Donc chaque joueur tire pénalty. Donc ça veut dire que moi, arrivé à un certain moment, j'ai des stats. J'ai des stats, qui c'est qui tire le mieux, qui c'est qui tire pas le mieux. Voilà. Sur le cas Victor, avant la séance de pénalty, si vous regardez le match, il vient me voir, il me dit, coach, ça va pas du tout, ma cheville, j'ai mal. Il dit, Victor, il y a les pénalty. Non, coach, je peux pas. Ok.
Ah voilà, il te le dit, d'accord.
Donc ça, pas de souci. Donc.
Donc à 2 minutes de la fin, il se dit qu'il peut pas tirer le pénalty.
Voilà. C'est ce qui se passe.
Ok.
C'est ce qui se passe. Donc, on sort. Maintenant, moi, j'ai mes statistiques. Donc, il y a la séance de pénalty. Ademola, il est dans le tireur. Le problème, c'est que le cinquième tireur, il n'arrive pas.
Donc, il est cinquième, Lookman.
Il est cinquième, Lookman.
Mmh, c'est ça.
Voilà. Maintenant...
Et Iwobi ne tire pas.
Donc, il y a... Je ne devrais pas en parler, mais je...
Ah, mais on a les explications.
Ouais,
non, mais c'est intéressant de savoir ça.
T'as les explications. Ouais, parce qu'en fait, j'ai dit, tout ce qui se passe dans le groupe reste dans le groupe. Bon, moi, j'en parle, mais...
Il y a prescription.
Ce qui se passe, c'est que tu as le choix. C'est soit tu nommes les gars qui veulent tirer, ou soit tu leur poses la question. Voilà. Et donc, tu en feras ton propre jugement.
Toi, tu penses qu'il vaut mieux poser la question, et tu as sûrement raison, quoi. On force pas un gars à aller tirer un tir au but sur une demi-finale de CAN au Maroc.
Il y a des moments où tu peux forcer, où tu vas forcer, et puis il y a d'autres moments où tu vas pas forcer. Tu vois, regarde contre l'Égypte, bon, j'ai dit, les gars, c'est moi qui choisis aujourd'hui.
Peut-être
voilà, comme ça, j'en assumerai les conséquences.
Et il s'est passé quoi contre l'Égypte?
L'Égypte, on est passé.
D'accord. Ok.
Bon, après... c'était pas le même match non plus. Hein.
C'est pas la même tension, c'est vrai, ouais. Pas la même pression. Ouais. Parce que c'est une troisième place et une demi-finale. Mais nous, en tout cas, de l'extérieur, moi, je ne comprends pas, et c'est mon avis, hein, que des joueurs aussi forts, des joueurs aussi importants, des joueurs aussi expérimentés, qui veulent aller chercher une finale de Coupe d'Afrique des Nations et qui ont la détermination pour, qui ne vont pas, ou en tout cas même à la 5
mois. Bah ouais, assumer leur, voilà, leur statut aussi sur, mais, les, sur un moment aussi
mais,
important.
Mais après bah, encore en une fait, fois, il y a des explications que nous, on n'a pas.
Et... En fait, bah, regarde, c'est toujours pareil. Moi, j'en veux pas à Victor. Parce que si
pour le coup, son remplaçant, c'est qui? C'est Onyuachu qui a marqué et qui est un spécialiste. Donc pour voilà. Le coup, et même, il faut le dire aussi, sur Victor, Trostekong, à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, tirait les pénaltys, qui était défenseur, et Osimhen, lui laissait. Donc c'est pas un spécialiste. Mais pour moi, un attaquant, un numéro 9, un finisseur d'exception, j'arrive pas à comprendre comment, sur 5 tireurs, surtout à 2 minutes de la fin, il y aille pas. Après,
je peux te dire une chose, statistiquement, je fais rentrer Paul parce que justement, c'est un tireur de pénalty. Et je vais te dire, le meilleur tireur de pénalty, c'est Samuel Chukwueze.
Il ne l'a pas montré. Hein.
Ouais, mais moi, statistiquement, sur les 150 pénaltys qu'il a tirés, il n'en a pas loupé un.
Ah ouais, d'accord.
À l'entraînement.
Voilà, bon, après, l'entraînement. Oui, le match, ce n'est pas la même chose que
lui. Oui.
Mais bon, moi, encore une fois, je te dis les faits. Mmh. Voilà, maintenant, moi, je n'en veux pas Victor. Parce que regarde, si on avait pris l'inverse. Je l'avais fait jouer, je l'avais laissé, il loupe son pénalty, on aurait dit Eric, mais le gars, il vient de te dire qu'il est blessé.
C'est vrai aussi.
Donc aujourd'hui, ben, après, c'est toujours facile de dire, et moi le premier, de dire, ouais, il y a eu ci, il y a eu ça. Il dit, Victor, t'inquiète pas, j'en prends la responsabilité.
Très bien.
Voilà. Et finalement, je l'ai pris la responsabilité, puisque ben, j'en ai pas parlé, j'en parle aujourd'hui.
Et personne ne lui a reproché à Victor dans le vestiaire de ne pas avoir assumé son statut sur la séance de tir au but?
Non,
je pense
qu'il a pensé au groupe. Il avait mal. Ouais. Il voulait donner la chance au groupe de se qualifier. Je pense au contraire, il a respecté le groupe.
Et toi, en tant que coach, au-delà de Victor ou de Iwobi ou de Lookman, comment tu gères cette déception de sortir sur deux séances de tir au but, sur deux échéances qui
comment
étaient
tu
très,
la vis,
très importantes.
Et laquelle fait le plus mal, j'ai envie de te demander aussi. La demi contre le Maroc ou la finale du barrage continental pour le mondial.
On n'est pas parti pour jouer la séance de pénalty. Sur le Maroc, je sentais qu'on était fatigué et pour moi, il fallait qu'on arrive à la séance de pénalty. C'est pour ça que dans mes changements, je fais rentrer Paul et Samuel parce que pour moi, c'est les deux meilleurs tireurs de l'équipe.
Donc il y a une réflexion là-dessus.
Voilà. Donc. Sur le Congo, on n'était pas parti. J'étais pas parti pour. Je pensais que ça allait se décider avant. Et donc, pareil, sur le Congo, sur la première mi-temps, on part sur un pressing tout-terrain. Et on avait joué encore une fois 48 heures avant contre le Gabon. Et on avait fait prolongation. Et donc, Ademola et Chouk, à la mi-temps, ils sont carbo. Donc, paf, je fais rentrer Edjouké et Moses.
Simon.
Et. Finalement, bam, eux, c'est même eux qui ont joué plus que Ademola et Chukwueze. Donc, ben, on arrive à cette séance de penalty où, ben, finalement, ben, il y a plus d'attaquants sur le terrain pour tirer des penalties parce que Alex avait joué 90 minutes aussi. Alex était fatigué. Alex voulait sortir.
C'est vrai que c'est un contexte différent pour moi les deux.
Donc
il y a Osimhen qui sort à la mi-temps blessé. Vous êtes proche du 2-0 à la mi-temps. Pour moi, c'est différent.
Donc là, on a dit, ben voilà, les gars, qui veut tirer?
Parce que la séance de tir au but, elle est vraiment mauvaise contre la RDC, de votre part.
Ah bah le Congo et le Maroc, elles sont pas bonnes.
Oui. Donc peut-être il y a une réflexion à avoir sur la suite. Mais en tout cas, j'ai eu mes réponses, Nico.
Eric, je veux qu'on parle du quart de finale aussi, parce qu'on l'a vécu intensément.
Non, ça on avait dit qu'on n'en parlait pas.
On l'a vécu intensément.
Non, l'Algérie, en fait, c'est un mauvais souvenir
c'est
pour moi.
C'est oublié d'en parler.
Il nous a fait très mal.
Il y a plein d'auditeurs, d'Afteriens, d'origine algérienne ou algérien qui nous écoutent. Il faut qu'on en parle. Je ne dis pas ça pour te mettre la pression, parce qu'ici on dit tout. Tu as marché sur l'Algérie avec ta sélection. Nous, on était un peu déçus de voir la différence de niveau.
Ouais.
2-0 à l'arrivée, sauf que ça aurait peut-être dû faire 4-5-0. Il y a des polémiques derrière, on peut en parler aussi, sur la main de Ajayi, tout ça. Donc, tiens, on y va. Il y avait main ou pas? Il y a pénalty pour l'Algérie?
En fait, c'est quoi la réglementation?
La réglementation, c'est main décollée du corps, ballon dans la surface de réparation qui tape le bras. Est-ce que c'est pénalty pour toi, ça ?
Ben, si la réglementation, c'est si le ballon touche la main en premier, il y a pénalty. Maintenant, si elle touche une partie du corps avant la main...
La cuisse, en l'occurrence.
Il n'y a pas pénalty.
Le problème dans cette situation, c'est de ne pas avoir la VAR, c'est juste ça. Mais après, ça, c'est autre chose.
Voilà. Et, mais encore
mais on va pas se réfugier là-dessus parce que
attends, on peut laisser répondre.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Pas gêné, on dit pas qu'on se réfugie.
Non. En fait, souvent, bah encore, je vais pas parler de la FIFA et de la CAF, mais souvent l'ambiguïté vient de ça. C'est que les règlements, on les sort quand il y a la polémique. Sortez-les avant les polémiques. Et avant un tournoi, il y a toujours une réunion avec les arbitres. Avant ce tournoi, avant une Coupe d'Afrique, tu as une réunion de 2 heures avant les arbitres.
On rappelle des règles.
Où les arbitres rappellent les règles. Ouais. Et si y a, des fois, il y a des petits changements. Donc, on a 2 heures de réunion. Ou avec des vidéos, ben, les gars, sur ça. Donc, la CAF, la CAF et la FIFA devraient communiquer un peu plus. Avant les tournois, ben, regardez, messieurs, les règles pour les mains, les règles pour la VAR, les règles pour tout. Et après, il y aurait moins de polémiques. Tu vois, on parle de la finale aussi. Ben, c'est quoi le règlement ?
Joueurs...
Moi, je prends pas parti.
Quitte le terrain pendant 15 minutes, il y a un règlement, c'est match perdu.
Voilà, maintenant, il faut avoir
les couronnes de...
Pour le courage, à ce moment-là.
Il y a une autre règle, parce qu'il n'y a pas grand monde qui le sache, mais moi, je suis joueur de foot, je sors du terrain, je vais chercher une bouteille d'eau sur le banc, je bois, j'ai carton jaune. Ouais. C'est-à-dire que quand je sors délibérément du terrain... J'ai un carton jaune. Ça, on n'en parle pas. Donc, si, quoi qu'il arrive, il y a des décisions à prendre. Mais pour prendre les décisions, il faut connaître les règles.
Et les appliquer. C'est ce que tu es en train de dire.
Bien sûr.
Si elles existent, il faut les appliquer, que ce soit sur la main ou pas main, sur le Sénégal qui quitte le terrain, tout ça.
Comme ça, stop, on arrête toute polémique.
Oui.
Voilà. Donc, non, moi, j'ai de la chance. J'ai de la chance parce que. Contre l'Algérie, ils auraient pu siffler la main comme il ne l'a pas sifflé. Donc moi, j'ai de la chance. Mon équipe a de la chance sur ça.
Ça aurait changé quoi,
Eric ? On a mis les ingrédients.
Voilà, c'est ça.
Bien sûr qu'on a mis les ingrédients.
Ça aurait pas changé. C'est le débat qu'on avait avec les supporters des Fennec. Sur le match, il n'y a pas photo.
Bah après,
il y avait combien à ce moment-là ? Il y avait
0-0. Après, ça peut changer peut-être mentalement, etc. Mais la réalité, c'est que derrière, il y a eu une leçon footballistique.
Non, à ce niveau, tu mènes 1-0 en quart de finale. Peut-être que le match, il n'est pas la même chose. Même si toi, moi, je sais que je vais rester dans l'approche tactique que je veux. Mais après, c'est
mentalement, les deux équipes.
Mentalement, regarde, l'Algérie, au lieu de baisser d'un pied à chaque minute, ben là, ils vont monter à chaque minute, parce que finalement, ils mènent 1-0. Et tu sais très bien que quand tu joues contre l'Algérie et que tu perds 1-0, c'est eux qui ont la maîtrise du ballon.
Bien sûr.
C'est eux qui ont la maîtrise
avec
du ballon. C'est eux qui vont maîtriser le match. Parce que moi, j'ai eu la chance d'entraîner 6 mois en Algérie. Donc j'ai encore... plus découvert le football algérien, le footballeur algérien. Je sais que c'est un joueur technique. Je sais que c'est un joueur qui veut faire tous ses exercices avec le ballon. Je sais que les supporters algériens, ils prennent leur pied quand leur équipe, elle garde le ballon. Donc moi, je sais que je vais avoir une équipe en face, mais techniquement, si je les laisse jouer, on va prendre la foudre. Tu vois ? Donc moi, je prends parti de leur mettre une intensité de malade.
Et en plus, t'as des joueurs pour aussi, quoi. Athlétiques, intenses, dans le pressing contre pressing, t'as ce qu'il faut.
Voilà, donc je prends ce parti-là. Et je me dis, ben... Après, quand je vois la... J'en parle... Vous me faites parler.
T'es venu pour ça.
J'ai un bon client, en fait.
Ouais, oui.
On pourra couper, si tu veux.
La composition, pour moi, quand je vois la composition, je dis, ben, c'est bon, on va encore plus mettre d'intensité.
Dès que t'as vu la compo, tu t'es dit,
par exemple.
Ouais. Par exemple, ben, qui ça ?
Moi, pour moi, si y a Bounedjah, c'est pas la même.
D'accord.
Parce que en ayant Bounedjah, c'est pour sortir d'un pressing, il n'y a pas 36 choses. Hein. C'est soit tu sors techniquement une touche, ou soit, paf, tu mets un long ballon et t'as ton attaquant qui cale les ballons et qui fait remonter le bloc. Voilà, donc moi, je vois pas Bounedjah, j'ai dit, oh, c'est bon, les gars, mettez encore plus de pression.
Et est-ce que t'étais encore plus surpris de ne pas le voir à la mi-temps, à 0-0 ?
Joker.
Parce que nous, en fait, on sait, moi, notamment en émission, j'ai trouvé ça dramatique comme gestion.
Il entre à la 100e, je regardais Bounedjah.
Parce que c'est un miracle pour l'Algérie d'être à 0-0 à la mi-temps. T'as encore Adams qui rate une occasion énorme, t'as des énormes situations du Nigeria, et même avec ce score-là à 0-0, il n'y a aucun changement de la part de l'Algérie avec Petkovic. C'est ça, moi, ça m'a mis hors de moi.
Ouais. Je pense que peut-être qu'ils pensaient qu'on allait baisser de pied. Et puis moi je me dis à la 60e, en général la 60e, c'est entre la 60e et la 70e, c'est toujours là qu'on a notre qu'on descend physiquement.
Ah, commencez à descendre.
Voilà. Et puis finalement dans ce match, non, on a
la première situation de la deuxième mi-temps en but.
Voilà. Et puis non, moi je me dis, bah, peut-être ils pensent qu'on va baisser de pied, c'est peut-être pour ça qu'ils changent pas, parce que moi je m'attendais à la mi-temps qu'ils changent aussi. Puis finalement ils changent pas.
Il fait ses changements, trois changements à l'heure de jeu. Hajmoussa, Boulbina, Bounedja, voilà, c'est ça.
Donc Bounedja, et puis surtout, j'ai oublié son nom, il me sortit, qui vient de signer à l'OM.
Abdelli qui entre à la 81e.
Ouais, mais qui joue pas d'entrée, ouais. On pensait qu'à la place de Zerouki...
Toi, tu penses qu'Abdelli aurait posé plus de problèmes.
Pour sortir les ballons, il aurait été plus intéressant.
Bah, en fait, moi, c'est pas dans la sortie de ballon, c'était plus pour je me disais qu'ils allaient dans le combat,
ouais.
pour essayer de couper Lookman. Parce que nous, on avait quand même ce... c'est pas une autoroute, mais si cette Coupe d'Afrique, ça a été l'axe Iwobi-Lookman.
Oh là là, c'était très fort. Très fort.
Tu vois, en plus, il a été très fort, Alex, dans ses passes-là.
Laser.
Diago.
Ah, mais c'est un régal.
Ouais. Pour trouver AD. Mais... Et c'est vrai que ça, cet axe. Mais le Maroc l'a coupé et on n'a pas trouvé l'alternative pour essayer de contrer ça, tu vois. Et donc, je pensais qu'ils allaient mettre ce joueur. Moi, je m'attendais à ça comme. Sur cette équipe, et puis encore une fois que ça m'a relâché un peu plus.
Tactiquement,
sans manquer de respect aux autres joueurs.
Bien sûr, on peut parler tactiquement un peu
de. C'était apporté une révolution.
De sa révolution avec le Nigeria, parce que tu avais joué comme ça avec le Mali en 4-4 de losange. Mmh. Moi, à chaque fois que je parle avec un coach, on me dit que c'est le système le plus dur à adapter, qui n'est pas simple. Et toi, tu arrives à chaque fois à bien faire jouer tes équipes en Afrique. Il y a aussi ce débat, est-ce que tu peux bien jouer au foot en Afrique? Et tu montres le contraire. C'est quoi. Comment ça s'est passé? Parce qu'avec Pesero, c'était un espèce de 3-4-3, 3-5-2 sur la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont été en finale, mais ça jouait pas très très bien. Franchement, devant le Nigéria, on prenait pas beaucoup de plaisir. Et de voir Lookman en 10, avec un milieu à 3 en losange, avec Akor Adams et Osimhen, c'est quoi ta réflexion là-dessus et pourquoi ça marche?
Bah, déjà, il faut que tu saches que moi, j'entraîne depuis 2014.
Oui.
2014, et c'est le système que j'utilise depuis 2014. Donc, c'est-à-dire que ce système, je le connais par cœur. C'est-à-dire que je l'ai essayé et je continue à le faire évoluer, aussi bien quand on a le ballon que pas le ballon. Tu vois, donc, au départ, c'était un. En fait, l'histoire, elle part comme ça. Je voulais jouer. Mon premier match, je veux le jouer en 4-4-2. Et je mets deux milieux de terrain. Et dans les deux milieux de terrain, il y en a un qui est plus à vocation offensive. Et dans l'animation. Je vois que c'était contre Dunkerque, hein, je m'en souviens encore. Et je vois dans l'animation que le gars là, ben, finalement, il n'a pas joué comme un 6, il a joué comme un numéro 10. Et donc après, j'ai travaillé sur des circuits préférentiels. Parce que bon, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'entraîneurs de haut niveau. Guy David, qui lui me parlait toujours de la passe en diagonale. Et même, il voulait qu'on conduise le ballon en diagonale. Donc, j'avais toujours cette diagonale dans la tête. J'ai eu Antoine par rapport... Comboiré par rapport à l'agressivité.
Tu l'as eu à Valenciennes ?
Je l'ai eu à Valenciennes. Et j'ai eu Daniel Leclerc. C'était par rapport à la projection rapide. Donc, ben, j'ai essayé de mixer tout ça. Et j'ai créé ma propre vision. Attention, hein, ce n'est que ma vision. Je ne prétends pas être au-dessus des autres ou en dessous. J'arrive à ma vision et j'essaie de travailler et j'essaie de faire évoluer mon système par rapport à mon expérience. Donc chaque année, j'apporte quelque chose de nouveau dans ce système. Mais encore une fois, ce n'est que ma vision. Mais je respecte aussi la vision des entraîneurs qui veulent défendre.
Est-ce que fait Pesero aussi avant toi?
Tout à fait. Mourinho, il a gagné. Pep, il a gagné. Eric Schell, peut-être, si Dieu le veut, il gagnera un jour ou il ne gagnera pas. Moi, j'ai ma vision et j'essaie d'avancer comme ça. Et donc, en fait, je travaille beaucoup sur ça. Donc, et sur le plan défensif, tu sais, tu es en 4-4 de losange, tu joues avec 4 milieux de terrain. Tu sais que ta première relance, elle est sur les latéraux,
oui.
Tes adversaires. Donc, il fallait réfléchir à quelque chose. C'est soit je joue un bloc bas et je laisse les latéraux recevoir la balle et faire ce qu'ils veulent. Ou soit ben, je partais sur un pressing tout-terrain. Donc ben, moi, je suis parti sur un pressing tout-terrain. Et ben, j'ai fait évoluer tout ça. Et je continue à faire évoluer. Et quand on avait la balle, ben, en fait, ben, finalement, c'est un système qui te permet d'être réaliste dans le projet de jeu. C'est-à-dire, ben, quand tu vas récupérer le ballon haut, ben, tu vas pouvoir te projeter très rapidement pour finir. Quand tu vas pour récupérer le ballon bas, ben, suivant la passe, l'orientation de ta première passe à la récup, ben soit tu vas être sur une attaque rapide, soit tu vas être sur une phase où tu vas conserver le ballon. Et si tu as des bons joueurs au milieu de terrain qui ont envie de jouer, ben tu as 4 joueurs au milieu de terrain et souvent tu joues contre ben des 4-4-2 ou des 4-3-3 et tu as toujours un surnombre. Donc ça veut dire que la possession, tu l'as. Voilà. Puis après, il suffit juste d'avoir des joueurs qui ont envie de jouer.
Et sur la question, pouvoir bien jouer en Afrique, tu montres que c'est possible ?
Ben bien sûr que c'est possible, parce qu'aujourd'hui...
Mais toi, ça a une importance...
Tu l'as fait avec le Mali aussi.
Ouais, parce qu'avec le Mali, pour resituer à ceux qui nous écoutent, on a vu le Mali de Tom Saint-Fiette, qu'on peut respecter. Hein,
Il a fait
quart de finale, mais moi, j'ai pas du tout aimé sa vision du foot sur cette Coupe d'Afrique des Nations. La tienne, où tu fais quart de finale, t'es quand même à deux doigts d'aller en demi, il se passe des trucs quand même paranormaux.
T'es en super numérique.
T'es à 11 contre 10, tu rates un penalty.
Il y a l'image, hein.
Bien sûr.
La fameuse photo.
Voilà, on en parlera après peut-être avec la bouteille d'eau
qui tombe de ton visage et c'est des plus belles images du foot africain de Cannes.
Mais vous sortez le Burkina Faso en 8e de finale, vous faites un super premier tour et là on voit avec le Nigeria la même chose. Donc on a des équipes avec Eric Schell, sans Eric Schell. Est-ce que ça a une véritable importance pour toi de laisser cette empreinte de plaisir, de beau?
Exactement. Tu vois, j'ai voulu faire ce métier parce que j'ai connu des entraîneurs, des bons, d'autres un petit peu moins bons, où ça s'est pas bien passé. Peut-être parce que j'étais pas bon aussi. Mais j'ai voulu devenir entraîneur pour pas ce que faisaient les autres entraîneurs. Tu vois, même en termes de management. Voilà, je voulais vraiment apporter ma vision. Et s'il y a un entraîneur que moi, je suis fan, c'est Bielsa.
Ok.
Voilà, Bielsa, et je dois te dire que moi j'adorais aussi la Hollande avec Cruyff.
Ah bah oui,
donc en fait, moi, ma vision du foot, et quand je jouais, moi, j'aime quand le football est spectaculaire. Voilà, j'aime quand il se passe des choses sur le terrain. Voilà, j'aime qu'on attaque. Mais si tu regardes ce système, il faut accepter d'être en déséquilibre aussi. Et souvent, les gens disaient qu'on n'aime pas défendre. Non, c'est que finalement, ben, quand le ballon est d'un côté, j'ai tout mon bloc qui est du même côté. Donc ça fait qu'on libère un côté. Et si en face, tu as une équipe un peu technique, ben, il faut avoir la capacité et d'accepter que tu es en difficulté. Mais à la récupération du ballon encore, quand tu récupères le ballon très bas, tu peux vite te projeter vers l'avant.
Ouais, c'est ça.
Parce que finalement, tu as un 10 et deux attaquants et tu peux être très dangereux. Donc moi, en fait, j'aime ça. J'aime quand il y a des courses, j'aime quand il y a du rythme, j'aime quand il y a de l'intensité, j'aime quand il y a des buts, j'aime quand il y a des frappes. Donc finalement, j'essaie tout simplement de faire ce que j'aime.
Et tes joueurs, ils ont adhéré tout de suite ? Tu leur as expliqué direct ? Pesero, ce qu'il a fait, c'est pas mon football ? Voilà ce qu'on va faire.
Ben non, en fait, non, moi j'ai dit, ben vous allez jouer comme ça, c'est tout. Non, En fait, les joueurs, quand vous apportez quelque chose de nouveau aux joueurs, ils sont toujours un petit peu résistants, réticents, parce qu'ils ont leur habitude. Hein. Ils ont leur habitude. Et moi, en fait, la première chose que j'ai dit avant de parler du projet de jeu, je dis, les gars, il va falloir courir. Voilà, c'est la première chose. Les gars, il faut courir. C'est-à-dire, quand on a la balle, et surtout quand on n'a pas le ballon, il faut courir. Maintenant, après, en Afrique, c'est vrai que c'est compliqué, parce que des fois, tu joues, c'est 45-50 degrés. Donc pendant un an, ça, il a fallu le travailler. Et puis finalement, ben, t'arrives au Maroc, la température elle est un peu moins fraîche, les terrains sont de très bonne qualité. Et ben finalement, les joueurs, ah ouais, mais non, mais Eric, ouais, t'as raison. Et on se régale. Ouais, moi, quand je discute avec Alex, il me dit, mais merci, coach.
Alexis Bobby,
ouais. Ouais, je me régale, moi.
Sur la réticence des joueurs, c'est intéressant. Sur le management, on va encore parler des stars, hein, Osimhen et Lookman. Avec tout le respect que j'ai pour toi, Eric, ce sont des...
Il y a beaucoup de respect, hein.
Non, mais toujours du respect. Toujours. Mais pour essayer de mettre en perspective dans ton management, quand tu arrives au Nigeria et que tu as Osimhen, Lookman, comment tu gères ces mecs-là ? Comment se passe le management ? Il faut aussi mettre les pieds dans le plat. Il y a eu pas mal de rumeurs ou d'informations comme quoi Osimhen avait...
On veut des réponses aussi.
Des réponses là-dessus. Apparemment, il a menacé de faire grève, de ne pas jouer un match. Il a lancé son accréditation.
Après le Mozambique. Il s'est embrouillé avec Lookman sur le terrain pour resituer tout ça.
Il y avait eu des histoires avec Lookman sur le terrain. Comment toi, tu gères ? Comment toi, tu diffuses ce management ? Est-ce que c'est vrai ? Aujourd'hui, tu es avec nous, c'est pour avoir des réponses. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment tu peux gérer deux stars comme ça ?
Déjà, Victor, ce qu'on doit savoir sur Victor, c'est que c'est le plus grand compétiteur. Et la chance que j'ai, c'est qu'en fait, on se ressemble. C'est que, ben, quand c'est, moi j'adore ce mec parce que quand il a quelque chose à dire, il le dit. Alors des fois, oui, il faut y mettre la forme. Et moi, j'ai ce petit défaut aussi. C'est je dis les choses, je dis ce qui sort, mais je préfère que ce soit... Et Victor, il est un peu comme ça. Et en fait, sur ce qui se passe sur le terrain, ils ont une discussion parce que Victor, en fait, il dit tout simplement, ouais, il faut qu'on arrête de jouer devant les buts. Parce que là, sur ce match-là, on a énormément d'occasions. Et lui, ce qu'il veut, c'est qu'on soit plus tueur. Donc, ils ont un petit accrochage. C'est un petit accrochage qu'il faut gérer. Donc, bien sûr, il rentre à la fin du match, il est un petit peu énervé. Non, il faut tout simplement discuter. Et comme c'est un mec, c'est un très bon mec, et qui est très généreux et qui est très vrai, il a besoin du temps pour redescendre. Et puis, une fois qu'il est redescendu, il est le Victor qu'il a toujours été.
Il y a des questions qu'il ne joue pas le quart contre l'Algérie ?
Jamais. Jamais. Regarde, il y a l'altercation. Ce n'est pas une altercation. C'est moi.
Une discussion. Oui, c'est une embrouille.
Moi, je me souviens, quand je jouais à Lens, j'avais Rougneux dans les buts derrière moi.
Oui, Védan Rougneux.
Combien de fois on s'est pris la tête pendant les matchs à s'insulter et à tout dire.
Mais là, ce qui est étonnant, c'est que tu menais, je crois, 2 ou 3-0, que Lookman avait déjà fait 2 passes D à Osimhen. Oui. Il dit, c'est bon, Victor, tranquille, il a bossé le garçon à tes côtés.
Mais c'est justement, les gars, le gars, c'est une machine. Je veux dire, à chaque entraînement, s'il n'a pas son spécifique attaquant, s'il ne marque pas ses buts après chaque entraînement, il faut faire la bagarre, il n'est pas content. À début d'entraînement, c'est le premier sur le terrain. C'est le dernier à sortir sur le terrain. Le gars, il veut tout gagner. Ouais. Donc s'il a possibilité de marquer 6 buts, il faut marquer 6 buts. Et il a raison. C'est pas, non les gars, c'est pas la kermesse. Et Lookman, c'est le même, en plus calme. Mais les deux, c'est des assassins, les gars. Non, moi je vous
c'est
le
très
dis,
très fort, hein.
Devant les buts, j'en ai vu des attaquants. Ah, je joue contre Paoletta, j'ai eu la chance de jouer contre Benzema, Keller. J'en ai vu des attaquants. Mais des mecs frappés dans la balle comme eux, ils frappent, moi j'avais jamais vu ça. Des mecs, c'est des 9 sur 10 en spécifique, c'est des 9 sur 10, pied droit, pied gauche. Hein. Les mecs, ils veulent marquer. Et aujourd'hui, ils le montrent. Et donc moi je vais pas demander à mes joueurs, les gars, on joue un match, il faut qu'on meure sur ce terrain-là, et me plaindre quand j'ai deux de mes joueurs qui se disputent un peu. Non, mais comme je dis après le match, ce qui se passe dans le vestiaire reste dans le vestiaire. Donc ils ont réglé ça, entre eux. J'ai même pas eu besoin d'intervenir. Parce que c'est des compétiteurs. Donc, il y en avait un qui était énervé, l'autre qui était énervé. Ça a duré 10 minutes. On est rentré à l'hôtel, on a mangé, ils se sont parlé. Chut, c'est terminé. C'est terminé. J'ai pas eu besoin d'en parler plus.
Ben nous, on est un peu frustrés parce qu'en fait, on les verra pas, ces deux gars-là et ta sélection à la Coupe du Monde. C'est vrai que ça fait un peu tâche. Le Nigeria sera pas à la Coupe du Monde. Alors évidemment, c'est pas... C'est pas de ta faute, hein. T'as pris l'équipe en cours de qualif, qui avait fait 3 points sur les 3 premières journées. C'est aussi une des raisons pour laquelle t'es arrivé en janvier 2025. Vous échouez, on l'a dit, in extremis contre la RDC. Comment tu le vis, toi, de paître au rendez-vous américain là, l'été prochain, avec le potentiel, les promesses de ta sélection?
Moi, je l'ai mal vécu. Hein. Je l'ai très mal vécu. Il a fallu l'encaisser. Maintenant, il ne faut pas oublier d'où je viens aussi. Hein. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier d'où on vient aussi. Hein. En mars, on reprend l'équipe. On a joué, jusqu'avant la Coupe d'Afrique. On a joué tout chaque match. C'était si on perd le match, on ne va pas aller aux Coupes du Monde. Donc après, on a vécu une année de folie aussi. Hein. Chaque match, le premier match que je joue, on joue le Rwanda chez eux. On va gagner 2-0 là-bas. Mais faut aller gagner au Rwanda. Et puis, premier match avec cette pression, on joue le Zimbabwe. Zimbabwe, on fait match nul, mais on prend un but dans les arrêts de jeu. Mais on a 10, 15, 20 occasions dans le match. Et puis, chaque match, on les a joués sous pression. Chaque match. Mais quand je parle de pression, en Afrique, c'est multiplié par 10. Et au Nigeria, c'est multiplié par 100.
Rien à voir avec le Mali ? Rien à voir ?
Non, on est sur un pays de 250 millions d'habitants. Moi, quand il y a une conférence de presse au Mali, j'avais 10 journalistes, j'en ai 200 là. Donc, non, c'est tout est multiplié par 100. Et donc, en termes de pression, et je le ressentais sur les joueurs. Je ressentais que certains joueurs avaient cette pression. Donc finalement, quand on arrive à la Coupe d'Afrique, ces matchs-là, ils sont faciles pour nous. Et les mecs, ils sont relâchés. C'est pour ça que d'entrée de jeu, on a imprimé ce rythme. Et les mecs, ils ont joué des matchs. Allez, on se lâche, quoi. Bien sûr qu'on est déçus d'aller à la...
Il y avait un côté revanchard sur cette CAN ?
Ouais. Les joueurs, ils voulaient... Ils voulaient montrer qu'ils avaient quelque chose sous le ventre. Moi aussi. Mais encore une fois, moi je les remercie parce que sur cette deuxième partie, sur cette année de Coupe du Monde, quand même, ils ont fait un super parcours. Hein.
Et ces mecs-là, t'as sentiment qu'ils sont raccord, ils sont raccord avec toi, ils veulent bosser avec toi encore sur la durée, Lookman, Osimhen. Je te pose la question parce que c'est quand même des. Voilà, c'est
non,
des
bah, faut, non, mais je peux pas. Il faut leur poser la question à eux.
Encore... On le reçoit demain, non, Victor.
Ça s'est fini comment ? À la fin ? T'as forcément parlé avec Victor à la fin de la CAN. C'est pas.
On t'a senti très ému au micro de Nasreddine Nasri notamment.
Exactement. Même en conférence de presse.
T'as été très touchant même en conférence de presse.
J'étais vraiment déçu. J'étais vraiment déçu pour mes joueurs, hein, parce que on n'a pas eu de préparation, mais le peu de jours qu'on a eu, je les ai tués. Voilà, je les ai tués. On a fait deux ou trois jours de entraînement. Trois jours avant le début de l'acte, je les ai tués. On avait construit quelque chose avec le groupe, là, où les mecs, ils étaient dans le truc pour aller au bout. Voilà, il n'y avait rien qui existait autour. Voilà, on était vraiment entre nous, et puis les mecs, ils étaient conditionnés pour y aller. J'avais réussi à leur faire entrer dans la tête que chaque match, il fallait qu'ils meurent sur le terrain. Donc, chaque entraînement, c'était... Il y avait une intensité max à chaque entraînement. Non, ça a été un régal. Je pensais qu'au Mali, j'avais atteint ce niveau ce niveau d'intensité à chaque entraînement, à chaque match. Et puis là, paf, on a upgradé encore. Et franchement, je me suis régalé. Et je dois te dire que j'étais vraiment déçu pour eux. Et avant ce match contre l'Égypte, putain, vous me faites trop parler, vous. J'ai une discussion avec Victor sur le terrain. Et justement, je lui dis, bah, écoute, Victor, moi, je sais pas. Hein, voilà, il faut absolument qu'on gagne cette troisième place. Et lui, il était blessé. Il était blessé, il pouvait pas jouer cette troisième place. Donc, moi, j'essayais d'aller le voir. Bah, Victor, faut que tu joues. Tu vois, bon. Et puis, j'ai vu, donc, ça allait pas du tout, quoi. Ça allait pas du tout. Donc, puis, on a une discussion. Je dis, bah, écoute, moi, je suis fier quand même. Je suis fier de ce que tu as fait depuis que je suis arrivé à la tête de cette équipe et tout. Je voulais te remercier en tête à tête, tout ça. Je dis, je sais pas de quoi est fait le futur, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, si un jour tu as besoin de moi, quoi qu'il se passe dans ta vie, tu m'appelles, je viendrai parce que, bah écoute, moi, quand j'arrive, toi, tu es un grand joueur, moi, je suis pas un grand entraîneur, hein, je suis un petit entraîneur. Et puis, il me regarde et puis il me dit, non, mais coach, peut-être, tu crois que tu étais un petit entraîneur, mais maintenant, tu es un grand entraîneur. Et ça m'a touché. Ça m'a touché et je me souviens, il n'y a que lui qui l'a vu, hein, mais ça avait été dur. Ça avait été dur de faire l'entraînement après, parce que ben voilà, je voulais gagner et je me souviens, donc je sors du terrain, je m'en vais un peu là, c'était sur le terrain d'entraînement du Raja, je me cache un peu et puis ben là je tombe en sanglots parce que je voulais la gagner cette CAN. Je voulais la gagner et puis ben, que ça me fasse plaisir que Victor me dise ça. Et donc je voulais encore plus le gagner cette troisième place. Et c'est vrai que si, comme je l'ai dit au micro, si je l'avais pas gagné cette troisième place, troisième séance de pénalty, passer à travers.
Ça aurait été dur à encaisser.
Avec ce qui s'est passé aussi à la CAN 2023 au Mali. Parce que quand tu fais un retour sur cette CAN, ben, même si le contexte fait que j'ai fait quelques changements, à la fin, tu dis ben, c'est toi le premier responsable. C'est toi le premier responsable. Donc cet échec-là, tu ne peux pas donner une telle qualité de jeu sur le terrain et ne pas avoir de résultats à la fin. Je ne dis pas qu'il faut que je gagne. Mais que j'arrive à un certain niveau, ouais, ça allait être dur de continuer. Et puis ben, finalement, les joueurs, encore une fois, ils ont donné ce qu'ils avaient à donner pour l'équipe en premier et puis pour le staff derrière. Et puis aujourd'hui, ça fait du bien.
Ouais, quand tu parles comme ça, tes rapports avec Osimhen, Lookman, la sélection, ben évidemment, on a envie que tu continues aussi parce qu'il y a des trucs à faire. Hein. Il y a des échéances. Il y a une CAN en 2027 à confirmer. C'est le problème. C'est qu'on ne sait pas encore. Il est censé y en avoir une également en 2028. Hein. puis un mondial en 2030. Ben voilà, on va parler de ton avenir personnel aussi, tes ambitions, tes rêves de coach. Tu l'as dit, hein, ça fait quoi depuis 12 ans que t'entraînes déjà ? T'as entraîné Martigues, Atlético Marseille. Il y a la Ligue 1 peut-être à un moment, on va parler de ça aussi. Bah, on peut y aller là-dessus
d'ailleurs. J'aimerais bien la Ligue 1.
Bah, t'aimerais bien, j'imagine. Mais le problème, c'est que nous, on en a parlé pendant la CAN, on constate une chose, c'est que quand t'es français sélectionneur d'une équipe africaine, historiquement, c'est comme si t'avais un handicap en fait.
Bah non, en fait.
C'est comme si t'étais étiqueté, ok, il bosse avec des sélections là lointaines,
il y a un mépris.
Un pourri dans des conditions différentes. Il peut pas réussir chez nous, quoi. Les mecs qui ont essayé n'ont pas réussi.
Bah écoute, moi je savais très bien qu'en partant sur le cursus, sur cette voie d'aller en Afrique, je savais très bien que j'allais me couper. Je parle pas que de la France, hein, je parle de l'Europe en général. Que j'allais me couper parce que j'allais être étiqueté déjà. Entraîneur d'une sélection, et bon, après, avec tout ce que ça comporte sur l'Afrique maintenant, moi, ce que je peux te dire une chose, c'est que tu dois faire ce que font les entraîneurs de club en un temps très, 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 très court. Tu vois, moi, des fois, j'ai 2 jours pour préparer un match. Voilà, avant ça, il a fallu que je sélectionne des joueurs. Mais j'ai 2 jours pour préparer un match. Pour travailler, c'est compliqué. Donc, ben, j'ai appris à me focaliser sur la chose la plus importante pour dans le but d'obtenir un résultat. Et en fait, être sélectionneur, ça m'apprend à ça. J'ai un gros travail d'observation sur les joueurs, sur le suivi des joueurs. Je regarde énormément de matchs. Et puis après, j'ai pu entre guillemets enlever et partir directement à l'essentiel. Voilà. Maintenant, c'est que moi je veux que mon équipe elle joue au ballon. Donc c'est vrai qu'il faut que je travaille encore plus pour justement trouver le joueur au bon endroit et puis trouver les entraînements où qu'ils puissent le comprendre le plus vite possible. Après, c'est des choix. Les équipes en Europe, ils choisissent. Maintenant, moi je peux dire une chose, c'est quand dans ton équipe tu as 80 ou 90% de joueurs africains, pourquoi tu ne mets pas un entraîneur avec un discours africain ? Parce que si tu mets...
C'est-à-dire ?
En fait, ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas demander à un Yougoslave d'aller entraîner... Si, bien sûr qu'il pourra entraîner. Mais un Yougoslave qui va entraîner dans le Sahara, son acclimatation, la connaissance du joueur qu'il va avoir en face de lui, c'est-à-dire du public qui va entraîner, elle va être toujours plus longue que quelqu'un qui est de la place. Si moi, demain, je vais entraîner en Alaska, ce sera toujours plus difficile pour moi qu'un entraîneur qui vient d'Alaska.
Il faudra plus de temps, quoi, pour t'adapter, comprendre un petit peu.
Donc, si dans ton équipe, tu as 70% de Serbes, il faut que tu aies un entraîneur serbe. Comme ça, il va plus vite faire comprendre à ses joueurs ce qu'il veut. Si tu as un entraîneur en France, si tu as des entraîneurs, tu as des Français sur le terrain, il vaut mieux avoir un entraîneur français. Parce qu'ils vont plus vite comprendre. Ce n'est pas une question d'ethnie ou quoi. Non, je te parle d'écoute et de compréhension.
Des codes.
Voilà.
Certains codes.
Voilà.
Après, même s'il n'y a pas de vérité absolue là-dessus.
Et on a vu des Claude Leroy qui a fait sa légende, exactement. Hervé Renard qui a fait sa légende.
C'est des Africains. Hervé Renard et Claude, c'est des Africains. C'est des gens qui...
Ils sont devenus.
Qui ont vécu.
Qui sont acclimatés,
qui ont vécu sur place, tout ça.
Tu vois, en sélection, tu as le choix. C'est soit tu arrives en sélection... Tu viens pour les matchs et tu repars. Eux, ils ont fait le choix d'habiter, de connaître le contexte.
Que t'as fait aussi avec le Nigeria ?
Moi, j'habite là-bas.
T'habites à Lagos ?
Ouais, Abuja.
Abuja.
Donc, tu apprends le contexte, tu apprends à comment les gens réagissent. Et puis après, c'est pour ça que tu as des résultats. Parce que c'est ça, c'est pas une question de couleur et de langue. Non, c'est une question de comment ils comprennent et comment je vais leur faire comprendre. C'est ça.
Mais Eric, aujourd'hui, on va mettre les pieds dans le plat. C'est que moi, j'en ai parlé avec beaucoup de sélectionneurs et même avec beaucoup de directeurs sportifs. On sait très très bien qu'il y a un mépris déjà du football de sélection. Le football de sélection, même européen, pour certains coachs, c'est très très dur de revenir dans un football de club parce que beaucoup disent que c'est deux métiers totalement différents, notamment sur la charge de travail, notamment sur le temps, etc. etc. Aujourd'hui, encore plus pour les sélections africaines, t'as vraiment le sentiment qu'entre l'ego que peuvent avoir certains coachs africains de ne pas revenir dans des clubs anonymes, je te donne un exemple, demain si toi Eric on te propose Angers, on te propose Le Havre, on te propose ce type de club, est-ce que tu irais par exemple?
Moi en Ligue 1 j'y vais tous les jours.
Voilà. Mais c'est pas le cas de tous les coachs.
Non, bien sûr, mais bon.
Je vais pas prendre des exemples, mais des coachs qui ont gagné notamment, à l'époque Hervé Renard, il est parti à Lille, il est parti à Sochaux, etc. Mais est-ce que tous les coachs qui ont fait, je te donne un exemple, Olidre Gragui par exemple, qui a fait demi-finale de Coupe du Monde, est-ce qu'il pourrait aller dans ce type de club-là parce qu'il a fait des choses extraordinaires sur le pays, même financièrement, même. En fait, il y a une espèce d'entre-deux de juste milieu qui est dur à trouver entre les prétentions salariales, les prétentions aussi de club et la réception du monde du foot de club qui a un mépris sur certains coachs africains. Et en fait, tu te retrouves plus là-dedans et au final, bah, t'es hors circuit, t'es hors réseau. Tu le ressens, ça, quand même.
Mais en fait, tu vois, pour moi, tu prends le mauvais exemple parce que Walid, pour moi, c'est un entraîneur qui, aujourd'hui, il peut pas aller dans une équipe qui est bas de tableau en Ligue 1.
Exactement.
Voilà, moi Walid,
il devrait être dans des bons clubs. Est-ce que les directeurs sportifs vont lui donner cette opportunité? Moi je lui souhaite, hein, mais ben, est-ce que
moi c'est ce que j'aimerais bien, mais tu vois, le football est en train de progresser justement là parce que regarde, en Afrique maintenant tu as beaucoup d'entraîneurs africains. Voilà qui font leurs preuves, mais il faut pas oublier que ces entraîneurs, ils ont été formés en Europe. Moi, j'ai été formé en Europe, moi, j'étais formé en France, j'ai été formé ici à Clairefontaine, j'ai passé tous mes diplômes ici. Donc moi, dans mon cas, ce qui me, entre guillemets, me tue, c'est que finalement, en France, j'ai rien fait. Voilà, j'ai entraîné des clubs, c'est pas rien faire, mais...
C'est anonyme.
Voilà, c'est Eric, quand on parle d'Eric, s'il me connaît, c'est en tant que joueur, s'il me connaît.
Oui, oui.
Voilà, j'étais pas non plus le meilleur joueur.
Athletic Marseille, Martigues, Boulogne...
Voilà, j'ai pas été en Ligue 2, j'ai pas été en Ligue 2.
Ou en National, quoi.
Voilà, j'étais plus sur du National 1, National 2. Voilà, donc aujourd'hui, ils ont cette étiquette-là.
Et c'est dur de s'en défaire.
Bah, je sais pas si je vais m'en défaire un jour. Hein. Non, mais toi, que je gagne quelque chose.
Demain, enfin pas demain, on verra ce que tu fais avec le Nigeria, mais dans 3-4 ans, t'as un bon club de Ligue 2 qui t'appelle, ça t'intéresse.
Ben est-ce que je vais préférer venir sur de la Ligue 2 ou rester sur une équipe nationale?
Oui, c'est ça.
Entre le Nigeria et la Ligue 2, aujourd'hui, tu restes sur le Nigeria.
Ben moi, oui, ou même une autre sélection
africaine.
Regarde, moi, je plaisante avec mes potes souvent. Je dis, mais moi, je postule tous les jours, moi. À l'OM, à Rennes.
Bien sûr.
Je dis même, on y va à pied, je le dis toujours. Non, mais aujourd'hui, moi, je sais quand même que je suis dans une grande...
Oui, c'est ça, en fait.
Je suis dans une grande équipe nationale.
Bien évidemment.
C'est ça. Maintenant, si demain, je dois partir de cette équipe nationale, si quelqu'un doit venir déjà me démarcher, c'est sûr qu'il faudra qu'il vienne avec des arguments. Maintenant, moi...
Voilà, c'est ça, parce qu'il ne faut pas non plus dénigrer ce que vous faites, vous.
Non, bien sûr.
Parce que tu dis, Rennes, j'y vais à pied. Non, surtout pas. Tu es sélectionneur du Nigeria, quand même.
Moi, pour moi...
Ça commence par là, le changement des mentalités. Dis, attendez, les gars, j'ai fait Mali, Nigeria, quart de finale, demi-finale.
Non, en fait je disais ça, si moi, demain, je décide de partir du Nigeria.
Oui.
Voilà, moi, si demain, j'ai envie d'aller dans un club...
Ah oui, d'accord.
C'est plus
un poste...
Parce que l'équipe nationale et les clubs, c'est pas la même chose. Tu sais, il y avait même des entraîneurs en équipe nationale qui entraînaient, en même temps qu'ils étaient en équipe nationale, ils entraînaient un club aussi.
Bien sûr.
Tu vois ? Donc non, moi je te dis, je suis en équipe nationale, je suis au Nigeria. C'est peut-être...
C'est les trois sélections africaines.
Mais dans le monde, pour moi, c'est dans le top 10. Je te parle en termes d'image,
évidemment.
En termes de
joueurs, de voilà, stars, de,
tu vois, donc,
de CV.
Donc non, moi après, je te dis, si demain je veux revenir dans un club, s'il faut aller en Ligue 1, mais moi j'y vais tous les jours en Ligue 1. Bon, après, je suis pas sûr qu'on proposera de.
Exactement.
Ligue 1.
C'est ça.
Voilà. C'est ça qui est fou.
Moi, pour moi, aujourd'hui, Eric Schell, tu aurais le FC Metz, Montpellier en Ligue 2 pour monter en Ligue 1. Pour moi, c'est ce type de mission-là. Je dis pas par rapport à ta valeur, mais par rapport à la vision que j'ai des directeurs sportifs ou des présidents qui pourraient te solliciter. Quand tu parles de Rennes, par exemple, pour moi, il y a un mépris chez beaucoup de clubs, mais où ces coachs-là sont hors circuit.
Comment tu l'expliques, sincèrement?
Ou alors il faut un super agent.
Voilà,
parce que ça aussi, c'est une réalité. Aujourd'hui, si tu es bien avec des... On les voit, hein, y a des agents qui font des carrières.
Du numéro de Moussa ou de Messa, on peut te fidèle.
Si t'as Moussa Sissoko, t'as Messa India, c'est différent.
J'ai dit Rennes, mais c'est un mauvais exemple. Bien sûr, ils ont pris quand même Habib.
Habib, oui, t'as raison, ils ont la chance à Habib.
Mais tu vois, c'est intéressant parce que Habib et toi, ou Habib et Walid, c'est des circuits de carrière très différentes. C'est des projets de carrière différentes. Habib, il s'est construit en club, il a toujours fait médiatiquement un travail pour s'installer avec à Canal, au Red Star pour essayer d'aller chercher une Ligue 1 par rapport aussi à la force médiatique qu'il, a, qu'il avait et son talent. Vous, vous avez été voilà, sur un circuit. Je pense qu'Habib Bey, si l'année dernière on lui avait proposé le Sénégal par exemple, il n'aurait pas été dans ce secteur-là, dans ce circuit de carrière, je pense. Et que, est-ce que tu peux faire les deux? C'est la grosse, grosse question. Et de toute façon, on verra. De toute façon, ça va être à vous de montrer que vous pouvez dépasser ce plafond de verre et qu'on vous donne cette opportunité-là.
Ce présumé plafond de verre, t'as raison.
Et ce présumé plafond.
Mais parce qu'en fait, à un moment donné, c'est comment tu l'expliques, oui, bah, en fait, comment tu l'expliques, toi, que en fait, moi, t'as beau faire quart de finale, demi-finale, Coupe d'Afrique des Nations, tout le monde dit elle a évolué maintenant, elle est plus compétitive que jamais, et que l'image change toujours pas. C'est quoi le regard qu'on pose sur
ton
profil, par exemple?
Non, c'est pour ça que j'en reviens un petit peu. En fait, qui décide dans les clubs? Qui décide? C'est les directeurs sportifs? C'est les présidents? C'est les fonds d'investissement?
C'est un peu, les trois, ouais.
Ouais. Voilà, donc en fait, c'est est-ce que
c'est les agents aussi?
Moi aujourd'hui, je raisonne en termes de terrain. Tu vois, je raisonne en termes de terrain. Je me dis, ben voilà, t'as des joueurs, ils sont jeunes, ou c'est les grands joueurs. Voilà, ben, Eric Schell, cette année... Il a managé Victor Osimhen, Lookman, Iwobi, Bassé.
Ah oui.
Ah, peut-être nous, on a des stars. Bah, peut-être que s'il arrive, va arriver à les manager. Maintenant, derrière, c'est... Moi, les décisions, je ne les prends pas. Maintenant, aujourd'hui, c'est ça qu'ils oublient les joueurs. Je vais prendre le cas de... moi, je ne sais pas, moi... L'OM, par exemple, aujourd'hui. L'OM, par exemple, aujourd'hui, c'est ça tangue. Ça tangue. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à l'OM? Moi, j'ai l'impression, enfin, je ne donne pas mon avis parce que je ne sais pas ce qui se passe, mais si on me demande mon avis, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une incompréhension. Le coach, il veut certaines choses. Et dû à la pression, dû au poids du maillot, ben, les joueurs, ils sont dans l'incompréhension. Tu vois? Mais moi, tout ce que je demande, c'est d'être dans une situation où on va juger mon management. Maintenant, je sais que ça va être compliqué. Je sais que je n'aurai pas cette chance.
Tu n'auras pas cette chance?
Si un jour, il y a un directeur sportif ou un président ben, qui est sur la même vision que moi. C'est-à-dire, ben, voilà, Eric, toi, je sais que ta vision, c'est d'avoir un projet spectaculaire, d'essayer de marquer des buts tout le temps. Ben, écoute, moi, j'ai envie que dans mon club, les spectateurs, quand ils viennent, ils prennent leurs pieds. Donc, ton taf, c'est ça. Maintenant, il faut que tu aies des résultats. Voilà. T'es OK? Oui.
Tu penses que ton profil peut leur faire peur, c'est ce que tu dis, justement? D'un football total, bah, ultra engagé, parce que la Ligue 1 évolue aussi, on a maintenant des coachs qui sont plus protagonistes, tu vois.
Non, attention, je dis pas qu'en Ligue 1, il n'y a pas ce genre de
football. Non,
mais je te dis, moi, aujourd'hui...
Ton profil, il colle avec l'époque, je trouve.
Ouais, ben bah, après, regarde, moi, mon téléphone, depuis que la canne est finie, j'ai pas reçu de coup de téléphone de président de
Ligue 1. Rien du tout.
Ben non.
Il y a des agents qui t'ont appelé, j'imagine, quand
ouais,
même,
ouais, des agents, oui.
Non, mais t'es accompagné par rapport à ça? Tu comprends la force et le poids d'un agent dans une carrière d'entraîneur?
Ouais, je comprends, ouais.
Et est-ce que tu fais ce travail-là pour essayer de te rapprocher ou essayer
après,
de...
tu sais, il y a un travail, il n'y a pas que ce travail-là, je le fais, hein, mais il y a un travail tout médiatique aussi à faire. Et moi, j'ai pas encore passé le cap de tout
ça. C'est ça, en fait. C'est qu'aujourd'hui, c'est bien beau ce qui se passe sur le terrain, mais aujourd'hui, il n'y a plus que le terrain qui parle. Voilà. Il y a l'aspect médiatique.
Il y a l'aspect médiatique. Il y a l'image.
Il y a le discours. Il y a la vision. Et puis, il y a aussi l'agent. L'agent qui arrive avec un catalogue dans un club et qui te dit, écoute, moi, j'ai Eric Schell, fais-moi confiance, on y va. On va pas citer les exemples récemment, mais ça compte énormément. Sûr. Je pense qu'arriver, entre guillemets, avec son couteau et sa cuillère, pour pas dire autre chose, aujourd'hui dans le football actuel, c'est pas possible.
Cyril Lisse-Lebrice à Sunderland, c'est parce qu'il est très bien représenté.
Parce qu'il est très talentueux aussi.
Il est talentueux.
Et peut-être plus talentueux que toi, on sait pas, mais en tout cas.
Mais qu'un Français inconnu en Angleterre qui débarque, qui prend Sunderland avec le budget, l'ambition. Ça n'arrive pas, si, je pense, s'il n'a pas...
Bien sûr, agent, qui est un super agent.
Certainement, ça compte.
Mais donc, voilà,
et puis, pour le coup, tu as un charisme aussi, parce que
oui.
Je en parler.
Ah oui, moi, pour moi,
la canne,
oui.
Tu as une gueule qui marque à l'image.
Non, ouais.
Arrête,
ah, oui, genre. Oui, il y a un truc.
T'es hyper télégénique, ça compte aussi, quoi.
En plus, tu nous as fait découvrir les costumes Nike. Ça, on savait pas qu'il y avait des...
Bravo.
Ça, on savait pas que...
Je les ai achetés aussi. C'est Nike qui t'a envoyé ça, magnifique.
On savait pas que ça existait. Très, très classe.
Je leur ai demandé. Je dis, écoutez, moi, pour les... J'aimerais bien... Parce qu'avant, sur le début de ma carrière, je me mettais jamais en chemise ou pantalon. J'étais toujours en survêt. Et donc je dis, bah, comme il faut essayer de changer son image, regarde, tu vois, j'arrive avec un pull Jordan, bon, ouais. Comme il faut essayer de changer son image, eh ben, j'essaie de progresser. Donc j'ai dit, bah, écoutez, si vous avez des trucs aux couleurs du Nigeria avec le sponsor, c'est mieux.
Ouais, ouais.
D'accord. Donc, bah, ils m'ont ramené ce
costume.
Cette petite chemise et cette costume, bah, d'ailleurs, qui était un peu grand, d'ailleurs.
Ouais, c'est vrai, c'était un peu large, mais bon,
on était surpris, ouais.
Tiens, on voulait parler avec Walid du néo-marseillais qui a signé à l'OM pendant le mercato d'hiver, Toshoku Nadi. Je disais tout à l'heure, tu l'as convoqué pour la première fois avec le Nigeria, on le connaît pas très bien, Zulte Waregem. 13 minutes pendant la CAN. Qu'est-ce qu'il vaut? Est-ce que c'est une vraie recrue pour l'Olympique de Marseille? Est-ce qu'il est prêt, surtout, à porter à l'OM?
Bah, écoute, moi, je l'ai sélectionné parce que on a fait un match amical avant la CAN en Égypte. Et il a joué la deuxième mi-temps. Alors, c'est un joueur qui joue simple. Il joue en deux touches, trois touches. Et sa qualité, c'est qu'il est très agressif sur 15-20 mètres sur le porteur du ballon. Il est capable d'aller chercher le ballon dans les pieds des adversaires. C'est pas quelqu'un qui va lire le jeu et couper des passes, non. Il va être agressif. Ce que je peux te dire, c'est que le petit, c'est un très bon gars. Voilà, très bon gars, très souriant. Et dès qu'il rentre sur le terrain, il est très agressif. Alors, il a tout de suite été accepté par le groupe. Tout de suite. Je me souviens, à un moment donné, dans la conservation, il veut prendre le ballon, dribbler un joueur, il perd la balle. Il y a Victor qui lui dit « Oh, reste simple. » Ouais, ouais, ouais. Et puis il est rentré, et puis depuis, ben non. Bon, après c'était à moi de prendre le risque d'essayer de le faire jouer plus souvent, mais j'avais un milieu de terrain où c'est difficile de rentrer. Oui. Hein.
Très, très difficile. Voilà. Si Onyedika, il est sur le banc, voilà. C'est pas pour rien.
Voilà, donc, non, ben écoute, je suis allé le saluer, là, justement, au MRN. Voilà, bon, moi j'habite à côté de Marseille, donc... Quand j'ai vu qu'il était à Marseille, je suis allé le saluer. On s'est vu dans les tribunes, on a discuté un peu. Je lui ai donné 2-3 conseils. Non, pour moi, il n'y a pas ce profil-là aujourd'hui dans le club de l'Olympique de Marseille. C'est Hojbjerg, c'est un joueur qui va être plus... qui va dicter le tempo du match, mais qui va être moins dans le fait d'aller agresser les joueurs. Voilà, lui, il va être plus dans apporter cette agressivité au milieu de terrain.
Dans un rôle castrateur, à peu près.
Voilà.
Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il manquait beaucoup à l'OM, et je pense qu'entre Timber et Nadi, c'est un peu le profil de joueur qui voulait aller chercher.
Ouais.
Moses Simon aussi, tu l'as cité tout à l'heure, mais Simon, tu le faisais beaucoup entrer en jeu sur la CAN, quoi, pour ses qualités explosives de fin de match. Ben, nous, nos débats avec Walid, hein, moi, je estimais qu'il n'allait pas forcément réussir au Paris FC. En tout cas, je trouve que Paris... Pas forcément fait le
bon
choix.
C'est une déception, en tout cas.
En tout cas, c'est une déception par rapport à ce qu'il a livré à Nantes. Qu'est-ce qu'il a dans les jambes, dans le potentiel? On ne sait pas trop où le situer. Quelle catégorie de joueur? On a l'impression qu'il peut faire énorme, qu'il peut se rapprocher d'un... Allez, se rapprocher seulement, hein, d'Ademola, Lookman. Mais en même temps, qu'est-ce qui lui manque?
Non, moi, je dirais que ce n'est pas le même profil. Hein. Moses, c'est vraiment un ailier gauche.
Percuteur.
C'est ce qui l'amène de la percussion. Il amène des 1 contre 1, des 2 contre 2. Et en fait, au Nigeria, on n'est plus sur un losange, mais souvent après, quand on a ce pic où on descend, on passe en 4-4-2 à plat ou en 4-2-3-1. Et souvent, lui, il nous apporte cette stabilité sur les ailes et il nous apporte finalement ce 1 contre 1 et du jeu sur les côtés. Parce que quand tu joues en losange, ton bloc adverse, il vient sur l'intérieur. Et puis après, tu apportes le jeu sur l'extérieur avec Moses ou Chukwueze ou Ejuke. Donc non, moi, comme je le ressens, j'ai vu quelques matchs du PFC en début de saison. Il a fait un bon début de saison quand il est arrivé. Et puis à Nantes, après, à Nantes, quand il joue à Nantes, il y avait le jeu qui s'orientait sur lui.
Oui, c'est ça.
C'était le projet de jeu, il était d'apporter le jeu sur les ailes, de mettre Moses dans du 1 contre 1. Et là, il arrive dans un nouveau club où il y a peut-être une autre philosophie, où il doit peut-être plus être intérieur avant de recevoir la balle. Et voilà, donc c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Après, moi, je suis content de ce qu'il fait en équipe nationale. Hein. Il nous apporte cette percussion, il nous apporte le centre. Voilà, il est non, il est parfait dans ce rôle-là.
Et Lukman à l'Atlético, t'en penses quoi? Il a fait un super match hier contre le Real Betis.
Ben moi, je suis très content parce qu'il va continuer à courir.
Ouais. Parce que moi, j'ai des doutes par rapport aux joueurs offensifs sous Simeone, où hormis Griezmann, souvent on est un peu déçu. Toi, tu trouves que c'est un super choix?
C'était compliqué pour lui à l'Atalanta de rester avec ce qui s'est passé cet été, parce qu'on a eu beaucoup de choses, mais il y a pas grand monde qui connaisse vraiment comment il a été touché. Parce qu'au départ, c'est ça, c'est un deal entre deux. Entre...
Et on lui dit, tu vas pouvoir partir.
Voilà.
À la fin, non, tu restes.
À la fin, tu restes. Donc lui, voilà. C'était quand même. Ça l'a touché. Et puis là, j'ai l'impression. Déjà, la CAN, je l'ai revu. Voilà, il était mieux et c'est pour ça qu'il fait une belle CAN. Et là, à l'Atlético, je sens qu'il est content d'aller là-bas. Je sens qu'il est vraiment bien. Et en fait, c'est un joueur qui est comme ça. Lui, si lui, il est dans un bon mood. Ben voilà, sur le terrain, il va tout donner. Et tu vois, pendant toute une année, moi, j'ai demandé, Adé, quand t'as pas le ballon, il faut que tu presses de telle manière, de telle manière, de telle manière. Et ça a été dur. Mais arrivé à la CAN, quand il est plus relâché, où ça allait mieux à l'Atalanta, ben là, il était à l'écoute et il a fait ce que j'ai demandé. Et on voit que quand il est en mouvement, ce joueur, il est injouable. Parce que c'est ça. Et moi, je suis content qu'il aille à l'Atlético parce qu'il va être en mouvement. Et quand il ne va pas avoir la balle, il va falloir qu'il bosse défensivement. Et s'il veut exister offensivement, il va falloir qu'il bouge aussi, qu'il fasse des appels et qu'il trouve les bonnes solutions. Donc il va être en mouvement. Et en fait, dans sa progression, pour moi, il n'y a rien de mieux pour ça. Parce qu'il va avoir ce côté défensif, mais offensivement, il va être libre. Il va être libre de pouvoir aller où il veut et faire ce qu'il veut.
Moi, je pense qu'il est très sous-coté, Lukman, et que s'il est à son meilleur niveau, il est top 20 monde.
Pas de ballon d'or africain.
Je parle en Europe, et le fait qu'il soit à l'Atalanta, ça a moins de poids peut-être. Et là, à l'Atlético, dans un championnat comme la Liga, il peut véritablement exploser et montrer tout son talent.
Bah, tout à fait, mais regarde, tu sais, en fait, Ademola, il a ce côté où il est renfermé. Donc après, comme on me parlait tout à l'heure, il y a l'image qui fait que derrière, t'as une grosse aura sous-côté. Regarde, moi, je me souviens quand il était à l'Atalanta, quand j'étais au Mali, moi, j'avais Bilal Touré qui était à l'Atalanta. Et en fait, je regardais les matchs et je me dis, ah putain, pourquoi Bilal, il joue pas? Puis après, à force de regarder les matchs, je dis, ah ouais, Ademola, il est fort. Mais en fait, c'est pas le même profil aussi. Mais Ademola, il est fort parce que c'est un mec qui, voilà, il joue devant avec deux attaquants. Mais en fait, il tourne, il va à gauche, il va à droite, il est au milieu, il a cette faculté à bien lire le jeu. Et en fait, sous-côté, à l'Atlético, il peut devenir vite, il peut vraiment prendre sa place où elle est, quoi.
Tiens, avant de terminer cet épisode avec toi, Eric, c'est très cool. Le Mali, on voulait en parler quand même. Nous, on est un peu désespérés, on adore ce pays, cette sélection, potentiel énorme, joueur, profil qu'on adore aussi. Est-ce que le Mali va y arriver un jour? Qu'est-ce qui lui manque pour y arriver?
Termes, par contre,
qu'est-ce qui lui manque pour y arriver, en fait? Il y a tout.
Non.
Il y a tout en termes de potentiel.
Regarde,
hein.
le Mali, je vais t'expliquer.
Ton pays, hein, t'es franco-malien, je le rappelle.
Mais oui, c'est mon pays. Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que le Mali, en termes de formation de joueurs, ils sont vraiment à très bon niveau. Tu vois, je ne sais pas si ça va lui plaire que je parle de ça, mais tu as l'Académie JMG, Jean-Marc Guillou, là, qui fait un travail depuis énormément d'années qui est exceptionnel. Et là, si tu regardes, chaque année, il y a 7-8 joueurs qui vont à Red Bull, Strasbourg ou dans d'autres clubs en Europe. Et c'est des joueurs qui arrivent. Tu vois, le petit Kamori Doumbia qui est à Brest, là, lui, moi, quand j'étais en équipe nationale du Mali, je l'ai découvert. Et après, il a joué tous les matchs. Hein. C'est des joueurs qui sont au-dessus. Les Mohamed Camara, les Doudou Aïdara, là, qui viennent depuis le mois de janvier d'être à Lens. Là. Ça, c'est des joueurs en termes techniques. Ils ont une qualité technique qui est impressionnante. Hein.
Sangaré qui est aussi arrivé à Lens il y a 6 mois.
Ouais, il y en a plein. Hein.
Ouais.
Mais tu vois...
Il pourrait faire une équipe de 11 milieux. En fait.
Ouais, c'est ça.
Et je vais t'expliquer pourquoi, ouais. Justement, ouais. Ils n'ont que des milieux de terrain. Là, c'est un pays, c'est pas comme le Maroc où tu as un terrain à chaque coin de rue. Donc, tu as des petits terrains au Mali sur le sable. Tu as des petits terrains à chaque coin de rue, des petits terrains. Donc, finalement, c'est des matchs qui favorisent le jeu, dans des petits espaces. Et finalement, il n'y a pas de cage. Donc ben, finalement, tu formes que des milieux de terrain. Et l'ADN du football malien, c'est les milieux de terrain. Donc moi, pour la petite histoire, quand j'arrive au Mali, je dis, mais moi, mon système, il rentre en plein dans l'ADN du Mali. Donc c'est pour ça que d'entrée, les petits, encore une fois, ben, les petits, les joueurs, c'est plus des petits, ils s'adaptent directement au système de jeu. Et aujourd'hui, moi, je sais pas, j'ai vu ça de très loin. Et je dois t'avouer que... non, ça me fait mal pour le football malien. Maintenant, moi, aujourd'hui, je suis loin de ça.
Et tu voulais dire quoi, là?
Je vais parler de Tom Senfit, peut-être.
Non, je... J'ai pas envie. Il est venu avec sa vision au Mali, il a fait ce qu'il a pu.
Mais il y a eu un gros débat entre ton football et le football de Tom Saint-Fit. Où est-ce que, en fait, le Mali pourrait aller? Est-ce qu'il pouvait aller plus loin en jouant mal, ou en tout cas en fermant le jeu? Et au final, il y a eu le même stade, le quart de finale pour vous deux. Sauf que moi, je pense que l'équipe qui était le plus proche d'aller en demi-finale, c'était quand même la vôtre et pas celle de Tom Saint-Fit. Toi, quel est ton avis là-dessus? Et puis derrière, j'aimerais quand même que tu me parles et que tu me dises comment ça s'est terminé, parce que moi, je trouve que le fait de t'enlever de cette sélection après un quart de finale qui était quand même prometteur, je trouve que le Mali a fait une énorme erreur à ce moment-là.
Ben, ils m'ont laissé le temps de jouer un match amical contre le Nigeria à Marrakech, qu'on avait gagné 2-0. Donc ça m'a peut-être permis d'aller au Nigeria après aussi.
Non, ben, donc tu leur en veux pas?
Non, ben, je leur, pour pas te cacher, je leur en ai voulu. Hein. J'en ai voulu à beaucoup de monde là-bas, hein, parce que... justement, j'étais en train de construire quelque chose et je donnais beaucoup. Maintenant, c'est le football. Il faut être. Voilà, ils ont pris leur décision. Maintenant, la décision, il faut l'assumer. Donc, ils ont pris une décision. Ils ont voulu changer de philosophie de jeu. Mais ils ont apporté un coach qui arrivait avec sa philosophie de jeu, qui était motivé pour ça. Et finalement, ben, la vérité, c'est qu'il arrivait en quart de finale. Donc. Moi, comme j'avais sauté bonne chance, eh ben, je lui saute toujours bonne chance, parce que mais la vérité, jusqu'à preuve du contraire, il est toujours entraîneur de l'équipe nationale du Mali. Donc, ben, il a encore beaucoup de boulot. Parce que là, ben, il n'y a plus de fédération. Donc, ben, moi, je lui souhaite bon courage. Moi, maintenant, je suis concentré sur moi. Et ce qui fait lui de sa carrière et de sa philosophie de jeu, c'est son problème.
Il est dur à gérer le groupe malien, parce qu'on a parlé du Nigeria. Je sais que tu as eu des problèmes avec... on a beaucoup critiqué Yves Bissouma sur cette Coupe d'Afrique des Nations, encore avec le brassard de capitaine et qui a manqué de leadership. Toi, il y a des moments où tu l'as pris, où tu l'as moins pris, où tu l'as fait jouer sur le banc. C'est dur à gérer, Yves, parce qu'il a des qualités monstrueuses. Non, il l'a montré à Brighton, il l'a montré à Tottenham. Mais avec le Mali, on est toujours déçus de Yves Bissouma.
En fait, Yves Bissouma, c'est un super joueur. Hein. C'est un super joueur, comme tu l'as dit. Il a montré avec Brighton ou à Tottenham. Maintenant, moi, les problèmes que j'ai eus, j'ai pas eu de problème avec lui. C'est au Mali qu'ils ont essayé de chercher des problèmes avec nous. Moi, mon travail, je le fais toujours, mon travail, c'est d'essayer de mettre la meilleure équipe sur le terrain par rapport à ce que je veux, moi. Donc moi, si demain je veux jouer en losange, pour moi, le meilleur, et je l'avais dit à ce moment-là, pour moi, le meilleur, c'était Kamori Doumbia. Voilà. D'ailleurs, pendant 2-3 ans, il est vite rentré dans les meilleurs marqueurs dans l'histoire du football malien en sélection. Donc là-dessus, je ne m'étais pas trompé. Mais encore une fois, j'avais rien contre Bissouma ou quoi. Je dis non, à ce moment-là...
Oui, tu prends le mec qui est le plus en forme.
Je prenais le mec qui était le plus en forme.
Et c'est ça.
Donc finalement...
Mais c'est fort au niveau management de se passer d'un joueur qui a un gros statut.
Après, ils sont pas surpris, les joueurs, parce que ça, je leur annonce. Je dis, les gars, si vous venez, c'est pour jouer, c'est pour être bon. Maintenant, si en club, vous jouez pas, moi, j'en assume les conséquences. C'est-à-dire, je vous le dis, si vous venez, ben, peut-être que vous allez jouer 15 minutes, peut-être que vous allez jouer 90 minutes. Mais derrière, c'est moi qui vais l'assumer. Donc, moi, après, je fais mes choix, mais il n'y a aucune attaque personnelle et il n'y a aucune attaque contre le joueur. Moi, j'ai fait mon jugement sur ce que j'avais vu. C'est qu'aujourd'hui, à ce moment-là, je ne devais pas le prendre. Donc après, dans le pays, je ne sais pas ce qui s'est passé ou je ne sais pas ce qu'il a entendu. Mais peut-être que... Ouais, de toute façon, depuis que je suis parti du Mali, j'ai plus eu de discussion avec lui. Après, moi, si on me demande mon avis, moi, mon capitaine, c'était Amari Traoré. Voilà, eux, ils ont décidé de changer de capitaine. C'est une décision du staff technique. Moi, je ne commande pas cette décision. Encore une fois, il y a un entraîneur qui est payé pour faire ce métier.
J'aime bien, tu dis, je commande pas, mais on sait ce que tu penses, quoi. Compris,
ouais, c'est ça. Quand tu commandes pas,
c'est très fin, mais c'est bien joué.
Non, mais il est payé pour faire des choix et pour avoir des résultats. Maintenant, moi, je parle de mon cas. Et un journaliste qui s'est permis après un match, il était à 2 mètres de moi, de m'humilier devant le monde entier. Donc ça, non, ça, c'est quelque chose que je vais pas oublier, ça.
Eric, dernière question. Quelle sélection africaine peut aller le plus loin sur le prochain mondial, selon toi? Le Maroc, forcément?
J'allais dire Nigeria.
Mais oui, tu mets aussi, on y pense, mais bon.
Non, bien sûr, le Maroc, ils peuvent aller loin. Le Maroc, ils peuvent aller loin. Le Sénégal aussi. Moi, ce que j'aime bien, c'est le Sénégal, c'est devenu l'Italie et l'Allemagne de l'Europe. À chaque fois, on les oublie, mais ils sont toujours dans le dernier carré, tu sais. Et dans toutes les compétitions. Hein. Donc, et d'ailleurs, un gros big up à Papcha aussi. Parce qu'il a fait une belle canne et il fait du bon boulot. Et puis non, le Sénégal, Maroc, l'Algérie, ils peuvent. Hein.
Ouais, si on change de coach peut-être.
Ben, en fait moi je suis content de voir arriver cette Coupe du Monde parce que maintenant, le monde entier va voir que les sélections africaines ont
progressé.
Ont vraiment progressé. Et ce que j'aimerais, c'est que toutes nos sélections qui soient qualifiées arrivent minimum en quart de finale. Et là, parce que moi...
Ouais, ça c'est une grosse performance quand même.
Si t'en places deux en quart, c'est déjà merveilleux.
Quoi. Ambitieux quand même.
Mais moi je suis ambitieux parce que, bon, moi des Coupes d'Afrique comme ça, avec l'intensité qu'il y avait sur cette Coupe d'Afrique, par rapport à la dernière, j'ai l'impression qu'à chaque Coupe d'Afrique, il y a l'intensité qui monte. Et si les autres nations, elles sont pas prêtes, les nations mondiales, elles sont pas prêtes, ça va leur faire drôle parce qu'elles vont être surprises. Et moi, je te dis, moi, je sens ce football. La Côte d'Ivoire, attention, tu joues contre Diomandé et Diallo de l'autre côté.
Ça va 10 000.
Faut se les coltiner, les deux, là.
Ouais.
C'est impressionnant. Et non, je te dis, moi, je suis très optimiste.
Et juste, on est parvenu là-dessus, très rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé avec la bouteille d'eau alors lors du Mali et Côte d'Ivoire? Parce qu'on a entendu plein d'histoires.
Bah, je vais encore faire le buzz sur le...
TikTok.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé?
Non, en fait, ce qui se passe, c'est que à la préparation de la CAN, je fais une fibrillation auriculaire.
Ok.
Voilà, donc j'ai mon cœur qui bat 200 pulsations par... tout le temps, donc vite, ils me donnent des cachets. Normalement, tu dois te faire opérer hein, tout de suite. Hein, parce qu'en fait, t'es à la limite d'une crise cardiaque, en fait. Et donc, je fais ça, donc je suis suivi, je suis sous cachet, mais j'ai des vertiges, j'ai des malaises, donc je fais toute ma canne, ma préparation et ma canne comme ça. Et puis, ben, donc, je faisais des malaises, et puis là, après le match, ben, bam, j'ai besoin de souffler, tu vois. Et puis, ben, j'étais en train de faire un malaise.
Ah ouais.
Bon, bien sûr, il y avait la défaite fait que j'ai ce malaise aussi. Mais voilà, c'est ça. Et puis, ben, le kiné qui est à côté de moi, ben, il sait que je suis en train de faire un malaise. Donc, il me met de l'eau sur la tête pour que je reste éveillé, quoi.
D'accord.
Et puis, ben, après, moi, quand je rentre, ben, je me fais opérer du cœur. Je fais une ablation par cryothérapie. Et puis, voilà. C'est ça la véritable histoire. Donc après, ben, encore une fois, ça a été tourné dans...
En dérision.
En dérision. On pourrait le dire en manque de respect aussi, mais bon, qu'est-ce qu'on veut? C'est la vie.
Ça fait une belle photo à l'arrivée quand même.
Ouais, c'est la vie et puis on...
Ça va mieux?
Ça va très bien.
Ok, c'est le principal.
Ça va la santé.
C'est le principal.
Ça va, ça va.
Dernière question, mais vraiment la dernière. Si tu fermes les yeux, c'est quoi ton rêve d'entraîneur là? Tu te vois où? T'imagines quoi?
Coupe du Monde.
J'avais un rêve, quand j'ai commencé, je voulais être le premier entraîneur africain à entraîner le Real Madrid. Bon, c'est quand j'ai commencé. Et maintenant, avec la réalité, je me dis que ça va être très très compliqué à faire. Mais déjà, si je peux aller à la Coupe du Monde, faire une Coupe du Monde avec une nation, ce serait bien. Et puis entraîner dans un championnat, par exemple la Ligue 1, dans une bonne équipe, ce serait très bien.
On te le souhaite, Eric.
On te le souhaite, évidemment. Merci hein, d'avoir passé
merci
plus
beaucoup.
D'une heure vingt avec nous. On s'est régalé.
Moi, j'ai beaucoup fait parler. Hein.
Tu parles très bien aussi, c'est pour
but,
ça.
C'était le but.
On est content.
Ouais.
On suit ça.
Je vais encore faire le buzz, non? J'ai pas dit trop d'années.
Non. Si sur Osimhen, il y a un truc sympa, on va ressentir ça. Quand tu parles, discussion que vous avez eue tous les deux, c'est assez intéressant.
Ouais. Très intéressant.
Eric, c'était un régal.
L'émotion.
Prochaine fois, tu reviens, t'amènes un petit maillot du Nigeria.
Ouais.
Tu veux qui, toi?
Ouais, Osimhen.
Je te ramènerai Osimhen parce que. Non, franchement, si je peux, les gars, je veux vraiment ça que tout le monde l'entende. Le gars, c'est un extraterrestre sur le terrain, mais dans la vie et en tant qu'homme, c'est un extraterrestre aussi. C'est quelqu'un de très, 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 très généreux. Et c'est vrai, de temps en temps, ben, il s'exprime fort, mais quand vous connaissez ce gars, c'est vraiment...
Hyper attachant et...
Non, franchement, c'est comme un frère, comme un fils maintenant pour moi.
Merci Eric.
Merci Eric.
Merci beaucoup.
Bonne route.
Bon courage.
Merci.
À bientôt.
RMC After Afrique.